Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes dans les studios de Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Aujourd'hui, le titre de notre émission est Tel Aviv, première ville hébraïque moderne. Alors Michael, comment est née Tel Aviv ?
Comme beaucoup d'autres villes, il y a le rêve, la légende, le mythe et la réalité. Ce n'est pas toujours la même chose. Il y a quelques différences. Voilà, on a coutume de raconter une histoire et puis il y a la vraie histoire, disons. Que l'histoire, la légende, c'est que Tel Aviv est née en 1909 sur la plage et qu'une association qui s'appelait à l'époque Ahuzat Bayit, fondée par Akiba Arye Weiss, avait décidé d'installer une ville moderne et donc de partager en fait des lots entre les adhérents de cette association, qui était quelques dizaines. Je crois qu'il y avait une soixantaine de lots, si je me souviens bien. Et donc, la méthode pour répartir ces lots, c'était ils avaient pris des coquillages dans la mer et ils avaient marqué sur chaque coquillage le numéro du lot et le numéro de l'adhérent. Et ils ont tiré au sort.
C'est-à-dire en fait qu'ils ont acheté la terre et ensuite ils se sont séparés les parcelles.
En fait, au départ, c'était des dunes.
D'accord.
Tel Aviv, c'était des dunes. Il faut savoir que en fait, Tel Aviv est né du fait que on a détruit les remparts de Yafo.
D'accord.
Et que donc, puisque les quartiers et les remparts de Yafo ont été détruits en 1879, donc quelques années auparavant. Et il y avait bien évidemment des Juifs qui habitaient à Yafo, et il y avait également des Juifs qui habitaient dans d'autres quartiers qui existent, encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui existaient avant cette fondation de Tel Aviv. Mm-hmm. Donc en fait, lorsqu'on dit que Tel Aviv a été fondée en 1909, ce n'est pas tout à fait exact, puisque deux autres quartiers existaient déjà auparavant. Neve Tzedek, que tout le monde connaît aujourd'hui, le fameux Neve Tzedek, qui est le quartier branché aujourd'hui, créé en 1887.
D'accord.
Et puis un autre quartier qui s'appelait Neve Shalom en 1890, qui étaient des quartiers où vivaient des Juifs qui avaient toujours habité soit en Palestine, soit des Juifs qui étaient venus du Yémen. Et qui donc, c'est pour ça que c'était un quartier qui était très yéménite, qui à un moment, Neve Tzedek, à un moment, avait pris le surnom de Shrunat Shabazi. Shabazi, c'était un des grands rabbins au Moyen-Âge de la communauté juive yéménite.
D'accord.
Alors, comme il n'y avait plus de place dans ces quartiers, qui étaient à proximité de Yafo, on avait donc décidé sur les dunes de se répartir des lots et ensuite l'achat et la construction de maisons a été financé par l'Anglo-Palestine Bank, qui est devenue la Banque Leumi, et le Keren Kayamet l'Israël, qui prêtait au fond de l'argent.
D'accord.
À ces personnes. Alors, ce qui est assez curieux dans cette loterie, donc qui s'est déroulée sur la plage, c'est qu'elle a été immortalisée par un photographe qui s'appelait Souskin, qui a gardé la photo pour lui. Et on a publié cette photo en 1936 uniquement.
D'accord.
Alors, pourquoi on l'a publié en 1936 ? C'est tout simplement parce que le premier maire de Tel Aviv, qui était Meir Dizengoff,
d'accord,
on connaît la rue Dizengoff, bien entendu,
oui.
Meir Dizengoff qui a été maire de Tel Aviv pendant très longtemps. Il n'était pas, il était un petit peu un autocrate, il n'était pas très démocrate. Et donc, il ne voulait surtout pas qu'on immortalise Arye Akiba Weiss, qui était le président de Ahuzat Bayit, était le fondateur.
D'accord.
Il voulait rester, lui, la figure de Tel Aviv.
D'accord.
Et donc, il avait, sur la photo qu'on a découverte en 1936, il avait tout simplement effacé Akiba Arye Weiss, qui d'ailleurs, par la suite, a eu une toute petite rue. Alors, on connaît la grande rue Dizengoff et la rue Akiba Arye Weiss. C'est une toute petite rue, quelque part, dans un coin de Tel Aviv que personne ne connaît. Alors évidemment, il y avait peu d'habitants à Tel Aviv, une soixantaine de familles au départ. En 1911, on a un premier recensement, à peu près 350 habitants. Et puis après, une explosion de la ville de Tel Aviv en l'espace d'une dizaine d'années. Disons, on a le recensement en 1924, il y avait déjà 46 000 habitants. Mm-hmm. Donc on est passé de 350 mm-hmm. à 46 000. Ce qui est intéressant dans le projet de Tel Aviv, évidemment, c'est le rêve. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement du sionisme, c'est-à-dire la création d'une ville. C'est la première fois que le peuple juif qui revient sur sa terre crée une ville depuis la destruction du deuxième temple.
D'accord.
Alors, il y a eu très peu, dans le cours de l'histoire, assez curieusement, les géographes qui s'occupent, qui s'intéressent à la question, n'ont recensé que la construction que d'une seule ville, qui est la ville de Ramlé au 8e siècle. Sinon, aucune ville n'a été construite en Israël, en Palestine, entre la période de 70 jusqu'à l'ère moderne.
D'accord.
Toutes les villes étaient des villes existantes que l'on connaît, ça fait Tibériade, Jérusalem, Gaza, Yafo, même Haïfa. Tout ça, c'était des villes qui ont toujours existé. Césarée, bien entendu, toutes ces villes ont existé. Et ce n'est que le sionisme, les mouvements sionistes qui
ont créé des nouvelles villes.
Alors, il y a eu les petites bourgades qui ont été créées, qui après sont devenues des villes, comme Petar Tikva, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, qui ont été créées avant Tel Aviv, ou Nes Tziona, par exemple. Mais au départ, c'était des petits villages. Tel Aviv a été conçu dès le départ pour être, je dirais, une métropole.
D'accord.
Alors, il y avait des modèles. Le modèle qui était le plus proche du rêve de Tel Aviv, c'était la ville d'Odessa, c'est-à-dire une ville portuaire, une ville cosmopolite, une ville moderne, une ville où il y aurait une activité à la fois culturelle, mais aussi économique. Et Tel Aviv est devenu, au fond, le centre vital d'Israël aujourd'hui, mais ça n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a commencé déjà au début du XXe siècle. Tel Aviv a tout de suite pris son essor et est devenu une ville très peuplée très rapidement. Alors, il y a des éléments qui ont, joué dans le développement de la ville de Tel Aviv. C'est surtout le fait que c'était une ville où on parlait hébreu. C'était la première ville au monde où tout le monde parlait hébreu dans la rue. Et donc, c'est là où s'est créé le premier lycée en hébreu, qui s'appelait...
Je ne sais pas.
Herzliya.
Herzliya. Oui. Le premier lycée en hébreu s'appelait Herzliya.
Herzliya, il a été créé en 1911. Il existait, ce lycée existait déjà à Yafo depuis 1905, je crois. Et il a été transféré, en fait, dans Tel Aviv, là où se trouve aujourd'hui la tour Shalom.
Et pourquoi le nom de Tel Aviv ?
Alors, c'est intéressant. Le nom de Tel Aviv, justement, c'est les membres de cette association, Ahuzat Beit, se sont posé la question. Bon, nous créons une ville hébraïque moderne. Comment allons-nous l'appeler ? Alors, il y avait eu plusieurs propositions. Les propositions étaient assez intéressantes. Il y en a qui disaient, il faut l'appeler Yefeifia, par exemple. Il y a des gens qui ont proposé d'ailleurs de l'appeler Herzliya aussi. Donc, les noms ont été proposés. Certains ont proposé la nouvelle Jaffa. Et puis, finalement, on a pris le mot de Tel Aviv, qui était la traduction, le titre du livre Altneuland de Herzl, roman utopique, qui s'appelait Altneuland, c'est-à-dire pays ancien, pays nouveau, avait été traduit en hébreu sous le titre Tel Aviv.
D'accord.
Qui n'avait aucun rapport.
Ben oui, c'est ça.
Donc Tel Aviv, la colline du printemps. Et en fait, le mot de Tel Aviv se fait référence à un verset de la Bible qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 15, et qui dit « Et j'allais vers les exilés de Tel Aviv, vers ceux qui demeurent près du fleuve de Kébar. Et là, ils étaient assis et je demeurais pendant 7 jours affligé au milieu d'eux. » Donc en fait, il s'agit d'une ville qui se trouve en Babylonie et non pas du tout en Palestine, en Eretz Israël. Et ce nom a été attribué comme ça. On a trouvé que ça sonnait bien, que c'était un nom intéressant et que ça pouvait correspondre à une ville hébraïque moderne. Ce que les gens d'Ahuzat Beit ignoraient, c'est que dans la petite ville, la petite bourgade de Nes Tziona qui avait été créée auparavant, il y avait déjà un quartier qui s'appelait Tel Aviv, mais comme ils ne savaient pas, ils ont donc décidé de donner ce nom-là qui a immédiatement accroché.
D'accord. Nous allons faire une petite pause musicale et tu nous expliqueras après quelle est cette chanson.
I אגדות הירקון רגליים לא במים אגדות הירקון דגים מתים בינתיים ריח של מוות סובב באוויר אני רוצה לבכות אדוני ראש העיר על גדות הירקון על גדות הירקון על גדות הירקון רגליים לא במים על גדות הירקון דגים מתים בינתיים הנחל הזה רע ימים יפים ספינות לבנות ריחפו על המים תל אביב והבה את הנחל הזה שבע תחנות אבל לעיניים ממשיך לבנות צירות לא עוזב את המים עצוב לו מאוד בשקט הזה יושב מתפלל ומביט לשמיים על גדות הירקון רגליים לא במים על גדות הירקון דגים מתים בינתיים ריח של מוות סובב באוויר אני רוצה לבכות אדוני ראש העיר על גדות הירקון על גדות הירקון על גדות הירקון על גדות הירקון אקליפטוסים גדולים נושמים בקושי על גדות הירקון אקליפטוסים גדולים נושמים בקושי על גדות הירקון אקליפטוסים גדולים נושמים בקושי על גדות הירקון
Miguel, parle-nous de cette chanson.
Alors cette chanson, c'est Harry Kenstein, bon, le grand chanteur, je dirais presque national, il est décédé il y a un peu plus d'un an en Israël, et qui est une personnalité, je dirais, du show business en Israël, qui était à la fois comédien, acteur, imitateur, une personnalité de Tel Aviv. Mm-hmm. Et donc cette chanson dit « Sur les rives du Yarkon », qui est la rivière qui passe au cœur de Tel Aviv. Et donc il s'adresse au maire de Tel Aviv en disant « Regarde ce que Tel Aviv est devenu ». Les eucalyptus n'arrivent même plus à respirer. Et donc, il est assis au bord et il se trempe les pieds dans l'eau. Et voilà, une nostalgie de Tel Aviv. Harry Kenstein était non seulement identifié à Tel Aviv, mais c'était une personnalité du monde du spectacle, bien évidemment, mais aussi du monde du sport. Il avait été champion sans hauteur.
D'accord.
Et c'était un supporter d'une des équipes de basket de Tel Aviv. Donc, c'est quelqu'un qui représente au fond Tel Aviv. On ne peut pas penser Tel Aviv sans penser à Harry Kenstein. D'ailleurs, son enterrement il est enterré au fameux cimetière de Trumpeldor, là où sont enterrées toutes les grandes personnalités de Tel Aviv. Et donc, il y a un véritable culte de Tel Aviv autour de cette personnalité d'Harry Kenstein, et évidemment de films que tous les Israéliens connaissent, qui se passent à Tel Aviv, et notamment un film qui se passe sur la fameuse plage de Tel Aviv, Bon, alors, c'est des histoires un peu légères, mais... Et puis, il y a le fameux sketch des Olim Hadashim, c'est-à-dire des vagues d'émigrants qui arrivent, où Rick Einstein et Uri Zohar, qui était son compère, qui après est devenu rabbin, d'ailleurs, parlent de Tel Aviv et de l'arrivée des immigrants à Tel Aviv. Alors, Tel Aviv, c'est une ville de diversité dès le départ.
Tu disais justement l'évolution de Tel Aviv, mais c'était quoi Tel Aviv au départ ? C'était où surtout ?
Alors, c'est ça la question. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que quand on voit Tel Aviv, c'est qu'on ne sait pas où ça s'arrête et où ça commence. Et dès le départ, un des urbanistes, si on peut dire, qui ont créé Tel Aviv, ont dit ne faisons pas de frontières à Tel Aviv. Parce que Tel Aviv est une ville qui va s'étendre. Et en fait, il y a un certain nombre de quartiers qui, au départ, n'étaient pas dans Tel Aviv, qui sont devenus Tel Aviv. Alors, pas. Le premier Tel Aviv, les premiers terrains qui ont été répartis, c'est autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le boulevard Rothschild, la tour Shalom, la rue Erhadaam, jusqu'au bord de mer.
D'accord.
Voilà, ça c'est le début de Tel Aviv. Et ensuite, Tel Aviv s'étend pour aller aussi bien vers le nord que vers le sud. Aujourd'hui, Tel Aviv dépasse la rivière du Yarkon, où se trouvent les quartiers de Ramat Aviv. Et petit à petit, Tel Aviv s'est constitué en quartier. Mmh. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, la mairie de Tel Aviv était répartie en un certain nombre de quartiers. Il y avait, je crois, 95 ou 94 quartiers de Tel Aviv, avec des assemblées ou des conseils municipaux des quartiers. Bon, ça faisait beaucoup de débats, mais ces quartiers étaient d'une certaine façon un peu autonomes. Alors, on a gardé cet esprit de quartier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore dans Tel Aviv des quartiers. Donc quand on cherche un appartement à Tel Aviv, eh ben, on parle de quartier. C'est pas seulement le nord ou le sud de Tel Aviv, mais il y a des quartiers qui portent des noms que les gens parfois ont oubliés aujourd'hui, mais ces noms existent encore à la mairie, et c'est encore, quand on prend la carte municipale, on voit encore ce découpage de quartiers. Alors il y a les quartiers qui n'étaient pas dans Tel Aviv, mais qui sont devenus Tel Aviv. Par exemple, le fameux quartier qui s'appelle aujourd'hui Sarona, que tout le monde connaît, puisque c'est en face du ministère de la Défense rue Kaplan, pas loin d'où nous sommes. Ce quartier où nous sommes là, à Radio Taf, eh bien, ce quartier est un quartier qui était en fait un village allemand, qui avait été créé par une association allemande religieuse qui s'appelait les fameux Templiers.
D'accord.
Et donc les Templiers allemands, ils avaient un quartier qui était... ils avaient un village dans Yafo. Et ensuite, ils se sont installés, je crois, en 1871. Ils ont créé le quartier de Sarona. Et ils y ont habité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est intéressant, les Britanniques ont fait prisonnier toutes ces familles allemandes qui vivaient dans Sarona.
Pourquoi ?
Et les ont échangées contre des soldats britanniques. Et d'ailleurs, il y a quelques Juifs qui étaient dans des camps, notamment en France, à Drancy, qui ont été libérés contre des Allemands de ce quartier de Sarona.
D'accord.
Donc il y a des histoires comme ça sur les noms de Tel Aviv aussi, puisqu'on a voulu... Tel Aviv a eu plusieurs surnoms. Alors un des surnoms les plus connus de Tel Aviv, c'est Ha'ir Levana, c'est-à-dire la ville blanche.
Pourquoi ?
Eh bien parce qu'on avait conçu dès le départ dans le plan, je dirais, d'urbanisme de Tel Aviv, d'en faire une cité idéale. Il y avait plusieurs projets, plusieurs rêves. C'est une forme d'utopie. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le sionisme, c'est une utopie. Personne n'envisage, ne pense que l'État juif va être déclaré dans la semaine ou dans l'année qui vient. Donc, c'est une forme d'utopie. On veut créer une ville idéale. Et une ville idéale à partir d'une idée qui est de faire une ville blanche, une ville avec beaucoup de jardins, une ville de nature aussi, où il y a une répartition entre les espaces verts et les espaces habités. Et donc, le modèle a été un modèle c'était l'époque, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui avait beaucoup de rêves et d'utopies en matière urbaine. Et donc, on a récupéré des plans qui avaient été créés par un urbaniste qui s'appelait Howard, Ebenezer Howard, qui avait conçu l'idée d'une cité-jardin. Donc une cité où il y aurait autant d'espaces verts que d'espaces habités.
Okay.
Et par la suite, on a fait venir, après, dans les années 20, un architecte écossais qui s'appelait Geddes et qui a essayé de planifier Tel Aviv. Le seul problème, c'est que Tel Aviv se développait plus vite que les plans qu'on faisait pour développer Tel Aviv. Et donc Tel Aviv a toujours été plus vite C'est une ville qui va plus vite que le rythme même des habitants qui y résident. Et ça a toujours été le problème de Tel Aviv. Alors après, on a appelé ça Ir HaPlaot, la ville des prodiges ou des merveilles. Mmh. Et ensuite, on a appelé ça Ir HaYona, la ville de la colombe.
D'accord.
Qui était, encore une fois, c'est la même image de cette ville blanche. Mais Ir HaYona, c'était le titre d'un recueil de poésie qui avait été écrit par d'un des grands poètes de Tel Aviv, qui était Nathan Alterman. Et donc, petit à petit, on avait pris cette métaphore pour désigner la ville de Tel Aviv, qui s'est développée comme une ville, justement, de culture. Et on va en reparler.
D'accord. Petite pause musicale. À tout de suite.
המגדל ענן קורא, הצריף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין ולנסיה, זה הכך הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. ערב, ערב מתעוררת, זו העיר ומתאפרת, ים אדם צמא רעב, אל האשליות שואב, בשמיים מעליו נוצצים לו כוכביו. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. עיר פלאפל, פיצה, סטייקים, עיר בטלם, דיסקוטקים, זו העיר היא תל אביב. מי שכמונס עד התקווה, גם צעיר וגם בתקווה, זה הקרח הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. ערב, ערב מתרגשת, עיר בכל צבעי הקשת, חלונות הרעבה, לעיניים תאווה, והנערות יפות, ובלב אלפי תקוות. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע. תל אביב, תל אביב, תל אביב, ים כחול, עיר בחול, תל אביב. תל אביב, את הכל, תל אביב, רק אחת כמוך אני יודע.
Alors, parle-nous de cette chanson.
Alors, cette chanson est chantée par Aris San, qui est un chanteur qui est aujourd'hui oublié, mais qui, à l'époque, était très populaire. C'est lui qui a introduit la musique d'origine grecque en Israël, qui est à l'origine de ce qu'on appelle ici la musique un peu Mizrahi, ce style-là. Il était un joueur de mandoline, de bouzouki, et donc cette chanson qu'il fait sur Tel Aviv, c'est une chanson qui chante Tel Aviv, la mer bleue, et la ville où il y a le sable blanc, le plus blanc et magnifique. Voilà, c'est une chanson d'amour pour Tel Aviv. Très belle chanson de l'époque, qui était une chanson qui marquait bien ce qu'était Tel Aviv. Une ville extrêmement, une grande vitalité, une ville extrêmement active. Et dès le départ, Tel Aviv est devenue une ville à la fois de diversité, où vivaient beaucoup de communautés extrêmement différentes, et une ville qui est devenue un pôle économique, un pôle financier important. Mmh. Et donc, toutes les Olim Hadashim, les immigrants qui sont arrivés notamment après la Première Guerre mondiale, à l'époque du mandat britannique, c'est-à-dire entre les deux guerres, disons, étaient des gens qui venaient des classes moyennes. Et donc Tel Aviv, et ensuite la périphérie de Tel Aviv, ça avait exercé un attrait particulier parce que c'était un endroit où on pouvait faire des affaires, où on pouvait avoir une vie économique, je dirais, beaucoup plus libérale que dans les kibbutzim ou les moshavim. Donc ça attirait finalement toute cette aliya des classes moyennes. Et Tel Aviv est devenue une ville à la fois de culture aussi, parce qu'elle a su attirer un certain nombre de personnalités du monde culturel, des artistes, des écrivains, et des écrivains connus qui tenaient des salons littéraires. D'accord. Et donc la mairie de Tel Aviv, et notamment Dizengoff, encourageait, et donc il a fait venir celui qui était considéré à l'époque comme le premier poète hébraïque de la période moderne, Chaim Nachman Bialik, lui a offert une maison à Tel Aviv, qui se trouve aujourd'hui encore rue Bialik. La mairie se trouvait à l'époque au haut de la rue Bialik, il faut savoir. Et donc, il tenait un salon littéraire une fois par semaine, où les écrivains venaient discuter, parler de choses et d'autres, lire des textes. Et donc, dès le départ, la culture hébraïque moderne, elle est née à Tel Aviv. Et les grands romans de la première période, je dirais, du sionisme, notamment des écrivains comme Agnon, qui vivait à Jérusalem, mais parlent de Tel Aviv, parlent de cette vie à Tel Aviv, parlent de ses relations entre les communautés, de ses relations entre les hommes, des histoires d'amour. Mmh. Donc c'est la vie moderne qui s'installe en Palestine à cette époque, sous l'influence d'écrivains et de poètes qui vivent à Tel Aviv et qui mènent une vie assez libérée. Ça n'a rien à voir avec Jérusalem, qui mène une vie beaucoup, très 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 libre, une vie de bohème. Il y a des scènes assez extraordinaires dans les cafés où on voit des poètes qui lisent des textes, on voit des histoires, du théâtre qui est créé, le premier théâtre hébraïque moderne créé à Tel Aviv également. Mmh. Et donc il y a là aussi la personnalité de ce maire de Tel Aviv qui était un personnage haut en couleur.
Parle-nous un petit peu de lui.
Bah, Dizengoff, c'était quelqu'un de très très charismatique, mais qui avait une vraie volonté de développer cette ville et d'en faire le centre ou la métropole active du mouvement sioniste. Et donc, il a dirigé, je dirais, d'une main de fer cette ville. Il avait ses habitudes, notamment de se promener à cheval. Donc, il allait visiter les gens à cheval. Il se promenait un petit peu partout dans la ville sur son cheval. Et puis, il allait à la mer, où il avait l'habitude de se baigner tout nu dans la mer, alors qu'il y avait des cafés au bord de mer. Et donc, voilà, il descendait de son cheval, allait se baigner tout nu dans la mer. Il avait des habitudes un peu curieuses comme ça. Et puis, il dirigeait la ville. On ne peut pas dire qu'il dirigeait la ville d'une façon très, très démocratique, mais voilà, il avait eu de grands projets, et notamment ce projet de développer la culture. Alors, Bialik, on le sait, n'aimait pas trop Tel Aviv. En fait, il allait pour le club, dans ce club des écrivains. Mais en fait, il habitait lui-même à Ramat Gan, parce qu'à Ramat Gan, finalement, il y avait plus de jardins.
D'accord.
Et donc, il habitait dans une petite rue à Ramat Gan, où il y avait plein de jardins. Et il allait à Tel Aviv, évidemment, dans sa maison, puisqu'il avait une maison qui lui avait été offerte par le maire de Tel Aviv. Donc, c'est une ville qui, dès le départ, a été une ville bruyante. C'est une ville où il y a énormément d'activités. Et c'est une ville qui se développe aussi sur le plan démographique de façon exponentielle. C'est-à-dire que même au bout de 3-4 ans, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait 5000 habitants à Tel Aviv. Il y avait déjà d'autres quartiers qui avaient été créés, trois autres quartiers en l'espace de 3 ou 4 ans. Nieffenov, Machane Yehuda, Kerem HaTemanim, là où c'est à côté du Shuk HaKarmel aujourd'hui, du marché. Donc tous ces quartiers-là qui sont le cœur de Tel Aviv ont été créés très très rapidement à partir de 1909. La création de Tel Aviv en 1909, elle est passée sous silence. Aucun organe de presse n'en a parlé, de cette répartition, de cette légende de répartition des lots. Mais finalement, Tel Aviv s'est développée par elle-même, par son activité économique et aussi par, je dirais, la personnalité de Tel Aviv. Tel Aviv, c'était, il y avait un besoin, il y avait une aspiration d'une ville de ce type. Dans le sionisme, il y avait cette aspiration à créer une ville moderne. Et ce lien avec la modernité, par opposition quelque part avec Jérusalem. Mmh. Et au fond, on a toujours, encore aujourd'hui, cette idée qu'il y a une vraie personnalité de Tel Aviv. Aujourd'hui, parfois on dit Médina de Tel Aviv, on parle de l'État de Tel Aviv, qui serait une espèce d'État indépendant par rapport au reste d'Eretz Israël. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un côté, mais probablement assez de façon, je dirais, très schématique, voilà, Jérusalem, spiritualité, et Tel Aviv, ce côté plus matériel. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait matériel parce que c'est plus une culture moderne. Voilà, on a voulu créer une culture hébraïque moderne qui n'existait pas, qui parfois, on pouvait considérer qu'elle était plus éloignée de la tradition juive, mais ce n'était pas tout à fait exact parce que les grands écrivains qui ont écrit sur Tel Aviv étaient malgré tout eux-mêmes imprégnés de culture juive ancienne également et de la tradition juive. Ils étaient peut-être certainement moins pratiquants. Et donc, on a voulu opposer finalement, dans la construction du sionisme, on a voulu peut-être opposer un nouveau type d'homme différent du juif de l'exil, un homme juif moderne, l'israélien. Et donc, Tel Aviv a été l'outil ou l'instrument de la construction de cet homme juif moderne qu'on appelle l'israélien.
D'accord.
Que tu connais.
Je connais, oui. Est-ce qu'on peut dire schématiquement que Jérusalem, c'est la ville religieuse et Tel Aviv a été créé pour être la ville sioniste par excellence ?
Oui, je ne dirais pas ça comme ça. Je crois que c'est un peu schématique, c'est un peu réducteur. Je pense qu'il y a une grande spiritualité dans cette vitalité et dans cette créativité qu'il y a à Tel Aviv. Il y a eu une vie spirituelle, culturelle.
Mais tournée vers le futur.
Tournée vers la modernité, sans doute. Tournée vers le futur. Tournée vers la construction d'un autre type de culture, mais pas forcément en opposition. C'est schématique, c'est réducteur. Bon, ça, c'est imagé comme métaphore. Je pense que c'est une belle métaphore de dire, voilà, on a deux centres qui nous attirent. Nous sommes à la fois attirés, nous sommes à la fois Jérusalem et à la fois Tel Aviv. Moi, je suis partagé comme toi. Je suis un peu Jérusalem et un peu Tel Aviv.
Moi, je suis un petit peu moins partagé. Je pense que je suis complètement Tel Aviv.
Ah. Bon, oui, moi, je suis aussi complètement Tel Aviv. Mais d'un autre côté, je sais que Tel Aviv ne peut pas exister sans Jérusalem, quelque part. Et c'est d'ailleurs pour ça que les habitants de Tel Aviv ont fait un très beau geste. Ils ont offert une plage. Et donc, il y a à Tel Aviv une plage de Jérusalem. Ils disaient, vous n'avez pas la mer, on va vous faire une petite plage pour vous. Voilà. Et donc, on attend que Jérusalem nous fasse peut-être quelque chose, une promenade, une rue. Voilà, une rue de Tel Aviv à Jérusalem. Mais bon, on a effectivement cette opposition. Il est certain que ce sont deux types de cités qui sont complètement différentes. Une qui est tournée vers l'activité. On connaît la vitalité de Tel Aviv et surtout le surnom qu'on a donné à Tel Aviv, la ville qui ne s'arrête jamais. Mmh. Et puis le côté beaucoup plus, je dirais, imposant de Jérusalem avec toute l'histoire et toute la tradition juive. Donc quelque part, c'est une ville qui est moins lourde. Il y a cette espèce de légèreté à Tel Aviv qu'il n'y a pas à Jérusalem. Mais malgré tout, Israël, c'est Jérusalem et Tel Aviv.
Petite pause musicale.
במקום הכי נמוך בתל אביב, אסור לך להפריע. בחוץ ודאי השמש כבר עולה ואני איתך הלילה כי נגמרו לי השמיים ושכחתי איך להתחיל
Alors, quelle est cette chanson ?
Cette chanson, c'est une chanson qui dit à l'endroit le plus bas de Tel Aviv. En fait, ça raconte l'histoire des bas-fonds de Tel Aviv, quoi. Voilà. Des bars, tout ce qu'on connaît de Tel Aviv, c'est-à-dire la vie nocturne de Tel Aviv. Et c'est une chanson un peu dans le style rock, rock'n'roll, qui raconte finalement l'histoire du Tel Aviv de la nuit, que nous ne connaissons pas, puisque nous dormons. Nous.
Bien sûr. Alors, pourquoi Tel Aviv s'appelle la Ville Blanche ?
Alors, la Ville Blanche, c'est parce qu'on a pensé d'abord qu'il fallait, en raison de la chaleur, de la température, il faut savoir que c'était un désert, on était sur des dunes. Donc, on a utilisé d'abord le sable des dunes aussi pour construire. Et donc, on a pensé que pour que se préserver de la chaleur, il fallait que les bâtiments soient en pierre blanche.
D'accord.
Et donc avec du crépi, et donc des bâtiments où, qui pouvaient un petit peu isoler de la chaleur et ne pas trop attirer le soleil. Donc cette clarté, cette lumière de Tel Aviv, qui est exceptionnelle, il faut le dire. Mm-hmm. C'est luminosité de Tel Aviv. C'est une des raisons pour lesquelles on appelle la ville blanche. Les maisons étaient blanches et il y avait cette luminosité dans la journée. Et donc, les maisons ont été conçues comme dans ce style. Au départ, on a construit un peu dans le style qui était en vigueur dans la région, c'est-à-dire un style un peu ottoman, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs pour ça que les premiers bâtiments, j'ai parlé par exemple du Gymnasium Herzliya, c'est-à-dire du lycée Herzliya, qui a été créé en haut de la rue Ahadam, là où il y a aujourd'hui la tour Shalom. Mm-hmm. Ce lycée ressemblait au fond à un bâtiment du Moyen-Orient, c'est-à-dire un bâtiment un peu comme les Turcs construisaient. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, le mouvement sioniste a décidé de créer une ville avec un tout autre style, beaucoup plus moderne. Mmh. Et avec l'arrivée des Juifs d'Allemagne, ils ont adopté ce fameux style qui est très typique de Tel Aviv et qui est peut-être une des seules villes au monde à avoir gardé ce style qu'on appelle le Bauhaus.
D'accord.
Alors le Bauhaus, il avait des lignes assez simples, très très géométriques et assez carrées. Hein. Mmh. Et donc... ce style a été, au fond, amené par à la fois les Juifs allemands, mais aussi par certains architectes. On a décidé, dans les années 20, de faire une espèce de grand plan d'urbanisme. Et donc, on a fait, à l'époque, appel à un architecte écossais qui s'appelait Geddes, mm-hmm. qui a repris les fameuses idées de Howard sur les cités-jardins et qui a essayé de faire un grand plan d'urbanisme, de développement de Tel Aviv. Ce plan a été publié en 1924. Le seul problème, c'est qu'il était déjà périmé, finalement, lorsqu'on l'a adopté, parce qu'il y avait déjà plus d'habitants que ce qu'il était prévu.
D'accord.
Et donc, il était extrêmement difficile de prévoir les vagues d'immigration et le nombre d'habitants qui allaient s'installer. Donc, c'était un petit peu compliqué de faire cette vision d'urbanisme. Mais il a voulu créer une ville modèle, finalement, une ville qu'il appelait une ville phare du sionisme. Il y a d'ailleurs un très bon livre auquel je... renvoyer nos auditeurs en français qui, sur justement tout cet aspect architectural de construction et tout ce plan d'urbanisme de Tel Aviv, c'est un ouvrage qui a été publié en France par les éditions du CNRS, une géographe qui s'appelle Catherine Veil-Rochant et qui s'appelle L'Atlas de Tel Aviv de 1908 à 2008 et qui raconte vraiment toute l'histoire de la construction de Tel Aviv et surtout avec énormément à la fois de documents photographiques mais aussi des cartes qui permettent de comprendre comment ce plan d'urbanisme s'est développé sur Tel Aviv. Alors évidemment, ça, aujourd'hui, c'est un petit peu décalé par rapport à ce que nous connaissons, parce que Tel Aviv, c'est comme un champignon qui a poussé dans les forêts après la pluie. Ça dépasse toutes les prévisions. Mais l'agglomération de Tel Aviv est quelque chose qui a grandi très rapidement. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, Tel Aviv, bien sûr, il y a beaucoup plus d'habitants qu'à l'époque. Mais c'est surtout au début des années 20 que Tel Aviv des années 20 aux années 30, Tel Aviv est devenue une ville immense, bien au-delà de ce qui était prévu. Et donc, dans ce projet de société, évidemment, il fallait faire un équilibre entre les besoins, bien évidemment, il fallait des transports, il fallait des services municipaux, des écoles, et donc plusieurs idées ont été à l'origine, je dirais, du projet de Tel Aviv. La première idée, c'est que d'abord, toutes les écoles devaient parler hébreu, qu'il fallait un certain nombre de jardins. Et puis, petit à petit, on a un petit peu supprimé les jardins pour construire des maisons, parce qu'il y avait des besoins. Mais malgré tout, on a essayé de garder cette forme d'esthétique qui était celle des urbanistes qui ont prévu ce plan, qui ont planifié Tel Aviv. Alors, Geddes a travaillé avec un architecte qui s'appelait Richard Kaufmann, qui vivait sur place et qui donc a essayé de garder malgré tout un certain style, une certaine régularité dans la construction des nouveaux quartiers. Il est arrivé en partie sur le cœur de Tel Aviv, pas forcément dans les autres quartiers. Geddes dit à un moment, lorsqu'il vient en Israël, en Palestine, il essaye de parler, de trouver un nouveau style qui serait le style particulier à Tel Aviv, mais il se rend compte que finalement, il y a des communautés juives tout à fait différentes. Et donc, il dit, je cite une phrase qu'il dit, « Je sens que tous les efforts doivent être faits pour développer au sein de notre peuple juif, et particulièrement chez les juifs palestiniens et orientaux, un sens de la beauté et la perception de la compréhension de l'architecture. » C'est un petit peu ironique.
Un petit peu, oui.
Voilà. Et donc, il se rend compte que quelque part, on essaye de construire, mais la démographie, le développement de Tel Aviv est tellement rapide que finalement, on est rattrapé par cette démographie. On n'arrive pas à conserver cette idée de départ de cette ville blanche et de cette ville qui à la fois maintient, je dirais, un haut niveau de résidence, avec des c'était malgré tout des maisons qui étaient modernes pour l'époque. Il faut savoir que dans toutes ces régions-là, il n'y avait pas de tout à l'égout, il n'y avait pas, vous voyez, toutes ces villes ont été conçues avec un vrai projet d'urbanisme moderne pour donner des services modernes aux habitants, mais que d'un autre côté, la démographie fait que dans certains cas, il y a, je dirais, un développement un peu sauvage. Dans ces villes.
Construire absolument pour recevoir les nouveaux arrivants.
Recevoir les nouveaux arrivants et puis aussi occuper de nouveaux quartiers, de nouvelles régions. Alors, il faut savoir que plus tard, lors de la guerre d'indépendance, il y a eu des combats dans Tel Aviv, des combats sur la conquête de Yafo. Il y a eu des attaques qui ont été sur Tel Aviv, à la fois de l'aviation égyptienne. Il y a eu des attaques, donc Tel Aviv a dû se défendre. Et donc, on a dû créer des quartiers où des Juifs étaient finalement un petit peu isolés. Aujourd'hui, ça semble un petit peu curieux
oui, isolé, oui, absolument.
Que des Juifs qui habitent du côté de Ramat Aviv, où c'était presque la frontière. Donc c'est un petit peu difficile de comprendre ça, mais c'était la réalité de l'époque où, malgré tout, le cœur de Tel Aviv était extrêmement animé. Et les quartiers qui étaient un petit peu là où il y a aujourd'hui, par exemple, le parc à Erkon, c'était pratiquement aller à l'étranger. Donc aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça, mais quand traverser l'Yarkon, c'était toute une expédition à l'époque. Donc Tel Aviv s'arrêtait au Yarkon, à la rivière du Yarkon, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le nord de Tel Aviv. Je crois que tu veux nous faire écouter un peu de musique.
J'aimerais bien, oui. À tout de suite. Thank you. Alors, Michael, parle-nous de cette chanson.
Ah bah, cette chanson, ça parle des toits de Tel Aviv. Et comme tu le sais, une partie de la vie de Tel Aviv, c'est sur les toits.
C'est vrai. C'est vrai.
Comme les toits sont droits. Et donc les gens, l'été, vivent un peu sur les toits. Et il y a toute une activité nocturne sur les toits. Alors cette chanson, c'est une chanson des années 80, mais déjà à l'époque, beaucoup de choses se passaient sur les toits de Tel Aviv. Donc c'est une chanson qui raconte un peu cette vie de Tel Aviv, qui à la fois, on a parlé tout à l'heure des bas-fonds de Tel Aviv, des bars de Tel Aviv, et il y a aussi sur les toits toute une activité. Voilà, donc on fait un peu une grande rétrospective sur Tel Aviv, qui est une ville assez intéressante sur... la construction de l'identité nationale, je pense.
Justement, le titre de notre émission, c'est Tel Aviv, première ville hébraïque moderne. Est-ce qu'elle a servi de modèle aux autres villes ?
Ah oui, ça c'est, je pense, une des caractéristiques de Tel Aviv, c'est qu'elle a servi au fond de modèle pour la construction d'une, non seulement d'une identité nationale, mais je dirais d'un esprit, on pourrait appeler ça peut-être... un spectrum national, à savoir quelles sont les choses importantes qu'un enfant doit savoir en Israël. Et donc, à partir des noms de rues, des noms de rues en Israël, c'est Tel Aviv qui a donné, au fond, le modèle d'attribution de noms de rues. Et donc, on a décidé que, par exemple, dans toute ville d'Israël, eh ben, il doit y avoir une rue Herzl, il doit y avoir une rue Radam. Donc, les dirigeants du mouvement sioniste auraient leur nom. Certains grands penseurs du judaïsme auraient leur nom. Donc dans toutes les villes d'Israël, il y a pratiquement un peu ce même modèle, à savoir des noms de rues qui sont plus ou moins similaires, des gens aussi qui n'ont pas nom de rue.
Mm-hmm.
Et puis,
sciemment.
Voilà, sciemment. Donc on a estimé que les gens qui s'étaient, par exemple, opposés aux mouvementsionistes n'auraient pas de nom de rue. Ça a un petit peu changé depuis. Et puis les sites. Donc on donnait des noms de monuments, de sites, à partir de certaines personnalités qui avaient marqué à la fois l'histoire d'Israël, mais aussi beaucoup l'histoire du sionisme. Donc les grandes rues seraient, au fond, les représentants de ce qu'on peut appeler la conscience nationale. Et donc, finalement, les grands poètes, les grands écrivains, les grands artistes, tout le monde a aujourd'hui sa rue. Mmh. Alors, curieusement, il y a des gens qui n'ont pas eu de rue. Soit parce que Dizengoff ne les aimait pas.
Parce qu'en fait, c'est lui qui a choisi...
Non, il y a toujours eu ce qu'on appelle une commission, qui existe encore dans la mairie de Tel Aviv. Il y a une commission municipale qui décide des noms de rue. Mais bien évidemment, le maire de Tel Aviv, il peut souvent imposer. Et quelqu'un comme Dizengoff, qui avait une très forte personnalité, avait l'habitude d'imposer un nom de rue, y compris la sienne.
Oui.
Et donc, pour ça, il a agi d'une façon un petit peu curieuse. Il a d'abord donné le nom de la place Dizengoff à sa femme, qui s'appelait Zida. Mm-hmm. Donc la place Dizengoff, c'est au nom de la femme de Dizengoff. Et bien évidemment, lorsque lui est décédé, il fallait bien la rue qui passe
par sa femme.
Par sa femme, a eu le nom de Dizengoff. Voilà.
D'accord.
Et donc il a fixé les grands axes de Tel Aviv. C'était les rues Keren Kayemet, les rues. Et donc cette tradition, si je peux dire. Elle est restée bien ancrée en Israël. Et donc, quand on se promène à Tel Aviv, et ben, au fond, on a toute l'histoire d'Israël, l'histoire du sionisme, l'histoire des prophètes, l'histoire biblique. Mmh. Et puis, certains, assez curieusement, une partie de ce qu'on appelle le judaïsme de l'exil n'a eu des noms de rue que bien plus tard. Bien plus tard, on a, assez curieusement, par exemple, on a débaptisé des noms de rue de Yafo. Après la guerre d'indépendance, mm-hmm. Lorsque Yafo est devenu, on a unifié donc la ville de Yafo avec celle de Tel Aviv pour en faire une seule municipalité. Mm-hmm. Et donc, dans certaines rues de Yafo, on a donné des noms assez curieux, notamment des noms, par exemple, français. Donc,
d'accord.
Vous avez à Yafo la rue Pasteur, la rue Racine.
D'accord. Il y a une rue
également...
Racine à Yafo.
Voilà. Et notamment des rues de grands rabbins.
Donc,
par exemple, à Yafo, en plein cœur de Yafo, de la partie arabe de la ville de Yafo, vous avez la rue du Baal Shem Tov, ou de Rabbi Nachman, qui se trouve en plein cœur de Yafo. Et également, par exemple, des rues de grecs, de grands penseurs et philosophes grecs. Mmh. Alors, je pense que c'est ça, c'était un petit peu pour embêter les Arabes qui s'étaient mal comportés au moment de la guerre d'indépendance. Et donc, on a voulu un petit peu leur faire payer leur attitude. Et voilà. Mais maintenant, depuis quelques années, bien évidemment, on donne également des noms de personnalités arabes à Yafo, à certaines rues. Voilà. Donc cette identité nationale qu'on a voulu forger à partir des noms de rue, pour justement, de manière pédagogique, finalement, apprendre un peu l'histoire du judaïsme et du sionisme, ça a été conçu dans cette vision de Tel Aviv d'une ville modèle, d'une ville qui sert de modèle à la fois économique, d'une ville qui est extrêmement attrayante, extrêmement vivante. Et on a toujours voulu garder cet aspect de Tel Aviv vivante, ville ouverte, ville de culture, ville ouverte à toutes les cultures. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on va terminer cette émission avec une chanson sur Tel Aviv, mais pour une fois, ça ne sera pas en hébreu. C'est une chanson en yiddish que très peu de gens connaissent. D'accord. Et nous allons faire découvrir cette chanson à nos auditeurs. Une chanteuse yiddish absolument magnifique que peu de gens connaissent, qui s'appelle Sophia Mar, et qui donc chante une chanson d'amour sur Tel Aviv.
Ah.
Elle est amoureuse de Tel Aviv.
C'est bien terminé comme ça. Merci beaucoup, Michael. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.
Nacht ist bläu, vom Säum zu Säum, der Jam ist stiller, liegt sich kaum. A Stern flüht, a Stern glüht, sing ich mir als euer Lied. A Stern flüht, a Stern glüht, sing ich mir als euer Lied. Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, ich hab dich lieb. Tel Aviv, Tel Aviv, ich bring zu dir mein Tel Aviv. O weite Stadt, mein Frühlingsstadt, a so viel Jungschaft wär noch hot. In deine Parken für Musik glöckelt hell deine Kinder, sie glüht. Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, ich hab dich lieb. Tel Aviv, Tel Aviv, ich denk zu dir, mein Tel Aviv. Von Rand zu Rand, von Breg zu Breg, dich grüßen Züge deine Töck. O Blumenstock, mein Pracht, mein Zier, rund zu dir, läuft zu mir. O Blumenstock, mein Pracht, mein Zier, rund zu dir, läuft zu dir. Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, ich hab dich geliebt. Tel Aviv, Tel Aviv, ich hab dich geliebt, mein Tel Aviv.